Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi, dans le rétro.
Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette année 2026. On vous souhaite une bonne année de Formule 1, bien évidemment, le paddock RMC qui est déjà sur le pont. Toutes les équipes du paddock pour vous proposer du contenu Formule 1, bien évidemment, les essais hivernaux vont arriver. Vous savez que la trêve est de plus en plus courte. Et on vous présentera ces essais hivernaux, cette nouvelle réglementation de 2026. On se plongera un petit peu dans les coulisses de cette saison. Mais on a choisi, en ce début d'année, avec notre team principal Jean-Luc Roy, de vous proposer des petits épisodes rétrospectifs. Ça s'appelle Dans le rétro de Jean-Luc, où on va revenir sur des grands moments de l'histoire de la Formule 1. Pour cette intersaison, on a essayé de mettre l'accent sur les grandes joutes, les grands titres, les plus grands titres peut-être de l'histoire de la Formule 1 avec Jean-Luc. Salut mon Jean-Luc.
Oui, salut mon Nico, bonjour à tous et bonne année à tous.
Et ouais, bonne année, oui, déjà une nouvelle année. Vous savez ce qu'on va faire tout de suite? On va se plonger dans une année dans laquelle le mur de Berlin s'est effondré. Une année dans laquelle la Game Boy débarquait, Jean-Luc. Et ça devenait le nouveau compagnon de toute une génération. Je sais pas si toi, t'as pas joué à la Game Boy, toi.
C'était
Mais moi, j'y ai joué, tu vois.
Ouais,
moi, la Game Boy, j'y ai beaucoup joué. C'était une année où Mylène Farmer, Madonna et Rita Mitsouko rythmaient les radios. Jean-Luc, nous sommes en 1989 et en Formule 1, il se passait ça.
Ayrton Senna has to win.
Wouldn't be unreasonable to say that they hate each other.
Il est champion du monde, il c'est Alain Prost. Rien ne peut plus s'opposer à la conquête de son troisième titre mondial en Formule 1.
And they get away very quickly indeed. It's a beautiful start by Alain Prost who goes into the lead.
Cette fois-ci, c'est fait. Alain Prost est champion du monde pour la troisième fois.
It's going to be constant attack, because Senna has got everything to gain and nothing to lose.
L'accrochage du 47e tour à Suzuka est bel et bien fatal au Brésilien Ayrton Senna.
This is the opportunity that Senna's looking for, and he's going through. Ouch! Oh my goodness, this is fantastic. This is what we were fearing might happen during the race. And that means to say that Prost has won the World Championship.
Senna disqualifié du Grand Prix du Japon avec 81 points, Prost tirant touriste, disputait le dernier Grand Prix de la saison à Adélaïde en Australie.
Bon, je suis soulagé parce que c'était une saison extrêmement difficile et que c'est un dénouement heureux. Et maintenant, voilà, on va pouvoir se concentrer sur la dernière course et essayer de faire le meilleur possible.
Le duel entre Ayrton Senna et Alain Prost, Jean-Luc, on est en 1989, on le disait. Ça fait plusieurs années déjà que Senna et Prost courent l'un contre l'autre. Là, en 89, ils sont coéquipiers chez McLaren Honda. Il faut que tu nous expliques pourquoi ce titre-là devient un petit peu... fait que ça devient un duel légendaire, en fait. C'est ce titre qui lance un petit peu la légende des duels Senna-Prost.
Alors, si tu permets, mon Nico, on va revenir même une année auparavant, c'est-à-dire 88. Pourquoi ? Parce que c'est la première année où, effectivement, Ayrton Senna rejoint Alain Prost chez McLaren. On sait qu'Alain est déjà double champion du monde en 85 et en 86. Il a raté le titre d'un demi-point auparavant lorsqu'il est arrivé chez McLaren. C'était le dernier titre de Lauda. C'est pour replacer dans le contexte. Or, Ayrton Senna est enfin, pour lui, devenu champion du monde de Formule 1 chez McLaren en 1988. Et on a bien compris que la gestion de ces deux monstres, à tout niveau, monstres de pilotage et de talent et monstres d'ego, était un peu compliquée pour Ron Dennis, mais on va dire que la saison 88 se déroule à peu près potablement. Senna termine avec 90 points sur les 94 qu'il a marqués, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on ne totalisait pas tous les Grands Prix. Il y en avait 16 par saison et on totalisait que 11 résultats. Alain Prost termine, lui, avec 87 points, toujours en 88, alors qu'il en avait marqué 105. Bon, c'est comme ça, c'est le règlement. Alors, on en arrive à 89, qui va nous occuper là, évidemment, maintenant. 89, là, la tension est absolument extrême. Alors, la tension, elle est totale, d'ailleurs, depuis le Grand Prix de San Marin. C'est en début de saison, parce qu'apparemment, Alain et Ayrton ont conclu un accord, sous l'égide, évidemment, de Ron Dennis, en disant que on ne s'attaquait pas au premier virage, c'est-à-dire que celui qui était devant au départ d'un Grand Prix, pour éviter, puisque les McLaren ultra dominaient la saison, pour éviter les accrochages et les éliminations, eh bien on ne s'attaquait pas. Or, dans ce Grand Prix de San Marin, la course est neutralisée, donc on remet tout le monde sur la grille et on repart pour le quatrième tour. Et évidemment, que se passe-t-il au freinage ? du quatrième tour, eh ben Ayrton attaque Alain et passe devant et remporte le Grand Prix. Et là, Alain Prost considère que cet accord tacite entre eux est rompu. Il est vraiment très en colère, très déçu. Senna réplique par une pirouette, évidemment, en disant bah non, c'était pas le premier tour, c'était le quatrième. Alors en fait, c'était bien sûr le premier tour de ce nouveau départ. Et à partir de là, ben, il va falloir gérer les égos. Et là, ça va être très compliqué. Alors derrière ce Grand Prix de San Marin, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Ayrton enchaîne deux victoires à Monaco et au Mexique. Alain est un petit peu en dedans, il est deuxième au Mexique et il termine beaucoup plus loin, il termine cinquième seulement, c'est sa cinquième au Mexique, je reviens. Et après, Alain se redresse, là, il remporte les États-Unis, pas le Canada, mais il remporte le Grand Prix de France et le Grand Prix de Grande-Bretagne, il se remet complètement dans le coup et on en arrive à ce paroxysme finalement et cette fin de saison où on a bien compris que c'est au Japon que ça va se jouer, à l'avant-dernier
Grand Prix. Ce Grand Prix du Japon. Voilà. On va se plonger dans ce Grand Prix du Japon à Suzuka où tu le disais, là c'est vraiment le paroxysme de cette lutte. Mais avant, pour que tu nous expliques bien, Jean-Luc, toi qui étais dans le paddock, qui voyait Prost, qui interviewait Senna et Prost, qui connaissait ces gars-là, ce sont deux styles complètement opposés, deux personnalités totalement opposées. C'est ce qui fait que la tension, elle est insoutenable et ça crée un duel pour le grand public qui est passionnant en fait. Ça captive le public, cette lutte.
Ah ben absolument, c'est presque une tragédie grecque, hein, j'allais dire, parce qu'effectivement, à ce moment-là, la Formule 1 est encore, vous le savez, très très dangereuse, malheureusement. Il y a régulièrement des accidents graves pour le rappeler. La sécurité des monoplaces et celle des circuits est loin de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment, oui, une tragédie. Et de la part de deux hommes qui sont chacun estimable à leur manière. Alors évidemment, à l'époque, toute la presse française, dans son immense majorité, est derrière Alain Prost. Et évidemment, Senna, c'est le vilain petit canard, hein, pour beaucoup en tout cas, en France. Et on peut penser que c'est normal, puisque évidemment, on soutient son pilote. Et puis, certains ont un avis plus différent. Moi, j'adore Alain, que je connais évidemment très très bien depuis cette époque-là, que je respecte infiniment. Mais j'avais beaucoup d'admiration pour Ayrton Senna. Et Ayrton a un côté, alors qu'il peut ne pas plaire à tout le monde, un côté mystique, effectivement. Et il avoue ça avec un petit peu de retard, notamment ce fameux tour en qualification à Monaco, hein, dont vous avez tous entendu parler, en 88, quand il signe une pole absolument phénoménale avec la McLaren. Et il avoue, plus tard d'ailleurs, un an ou un an et demi plus tard, qu'il se regardait lui-même conduire, qu'il pensait que rien ne pourrait lui arriver et qu'il était intouchable. Et c'est là-dessus qu'évidemment, ses ennemis, ceux qui veulent le détruire, le critiquent en disant « oui, il est complètement allumé, en fait, il a plus les pieds sur terre, il ne sait pas ce qui lui arrive ». Bon, je crois que ces propos ont été mal interprétés. D'ailleurs, ça a été un petit peu un coup d'arrêt sur les confidences d'Ayrton Senna. Donc oui, ce sont deux personnalités opposées. C'est vrai qu'on est tous un peu gênés parce qu'on les admire tous les deux, on les adore tous les deux, on les respecte tous les deux. Et pourquoi faudrait-il prendre position ? Et on va arriver à ce Grand Prix du Japon qui va être quelque part considéré comme un paroxysme, mon Nico. Et effectivement, chacun, on est dans les starting blocks et on sent, je l'ai dit, le décor est dressé, on sent qu'il va se passer quelque chose d'énorme.
Alors, on est à Suzuka en 1989, Grand Prix du Japon. La donne, elle est simple, Jean-Luc. Senna, il doit gagner pour rester encore en vie en championnat. Il reste une course derrière. Et en fait, ce Grand Prix de Suzuka 89 va peut-être devenir le théâtre d'un des accidents les plus célèbres de l'histoire de la Formule 1. Faut que tu nous racontes ce Grand Prix.
Ah oui, oui. Alors, on rappelle que lui, c'est vraiment le champion des pôles, hein, avec 65 pôles au total. Il va rester longtemps tout en haut de la pyramide. Là, il a signé déjà 12 pôles avec celle du Japon. Et il faut savoir qu'à l'époque, le président de la fédération est Jean-Marie Balestre, donc un Français. Et évidemment, Senna suspecte qui est un espèce de favoritisme pour Alain Prost. Et il va prendre comme exemple, justement, la position sur la grille de départ au Japon. Parce que les pilotes, si vous connaissez, et vous connaissez tous évidemment le circuit, après ce long départ, il y a ce droite qui va en se refermant, qui se termine par, pas tout à fait une épingle, mais un virage serré à droite, et qui enchaîne sur le snake, l'enchaînement de virages fantastiques à haute vitesse. Donc autant dire que la position sur la grille est importante, parce qu'il faut trouver la meilleure adhérence. Et là, La pole, elle est à droite dans le sens de la marche, c'est-à-dire du mauvais côté de la piste, du côté poussiéreux. Et Ayrton se bat pour ça. Il dit « Mais pourquoi, alors que j'ai signé la pole, on me met du mauvais côté de la piste alors que l'adhérence, elle est du côté gauche ? Elle est du côté, effectivement, où on passe régulièrement pendant toutes les essais. Donc là, c'est là qu'il y a le maximum de gomme, c'est là que la piste est nettoyée. Et c'est ce qui va se produire au départ, bien sûr, puisque les deux McLaren sont sur la première ligne. Donc, je le répète, dans le sens de la marche, Senna est à droite avec la pole et Alain est à gauche avec le deuxième temps. Et au départ, eh bien, il prend le commandement du Grand Prix. Et là, il va partir et commander l'ensemble de ce Grand Prix. Et pour le moment, eh bien, ça empêcherait Ayrton Senna de décrocher le titre. Alors, on va se battre, on va se batailler, même, on va dire, longtemps, jusque... vous savez que ce circuit comporte également ce qu'on appelle le virage R, qui se passe à fond absolu, à plus de 300 km/h, et qui commande le freinage sur la chicane. Et c'est là qu'on peut effectivement tenter de dépasser. Et depuis une bonne vingtaine de tours, Ayrton s'est rapproché d'Alain, il est dans la boîte de vitesse et on a compris que la seule manière de passer, c'est de passer à l'intérieur du freinage de la chicane à droite. Alain le sait, bien sûr, et donc il ferme systématiquement la porte et Ayrton n'est même pas en mesure de tenter une attaque. Et la tension est vraiment à son maximum. On se doute bien qu'à un moment, il va falloir que Senna joue son va-tout. Et c'est ce qui se passe. Et à un moment, Alain laisse un tout petit peu de place à la corde. Enfin, il ne la laisse pas vraiment, mais il est obligé de freiner, on va dire plutôt au milieu de la piste, et Ayrton glisse le museau de la McLaren à l'intérieur. D'ailleurs, il a les deux roues de droite un petit peu en dehors de la piste, mais bon. Et puis, Alain freine et au dernier moment, se rabat, il prend sa trajectoire normalement, et les deux monoplaces sont engrenées l'une dans l'autre, s'immobilisent. Là, Ayrton a ce réflexe, il lève le pouce en disant à Alain, en le regardant à gauche, en disant « bien joué ». Mais lui, il veut continuer tout de suite. Alain quitte la monoplace, les commissaires s'affairent. On essaie de désimbriquer les deux monoplaces. Et Senna demande qu'on le pousse, les commissaires le poussent. On remet le moteur de la McLaren en route. Et là, Senna, naturellement, je dirais, sans réfléchir, prend l'échappatoire qui est en face de lui et regagne la piste. Alors, Alain est en dehors de la piste. Lui, pour lui, eh bien, il est encore parfaitement dans le coup. Et au contraire, il pense qu'il a pris une option, puisque les deux étant éliminés, c'est à son avantage. Sauf qu'Ayrton ne l'entend pas de cette oreille. Alors, la moustache avant de la monoplace a été touchée. Il termine son tour, il repasse par les stands, il s'arrête au stand, on lui change le museau, on lui change les pneus, il repart à l'attaque. Et là, il fait une remontée à la Ayrton Senna, absolument incroyable, et il s'empare du commandement et il remporte le Grand Prix, ce qu'il croit être la victoire. Or, évidemment, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va être déclassé.
Jean-Luc, je reviens sur cette remontée, mais c'est fou parce qu'il repart avec combien de retard là sur le leader après tout ça, après cet incident, après le passage par les stands, le changement du museau, il était...
Ah ben c'est complètement fou, oui. Il s'arrête 18 secondes à son stand, 18 secondes 4 de mémoire. Donc il repart, il a une dizaine de secondes de retard sur Nannini et sa Benetton. Et il mène un rythme absolument démentiel. Et il revient, il rattrape et encore une fois, il s'empare du commandement. Il faut dire que à l'époque, les pilotes sont impressionnés. Hein. Ils savent très bien que quand dans leur rétroviseur, puisque c'est le titre de ces paddocks hivernaux, quand dans leur rétroviseur, ils aperçoivent un museau rouge et blanc avec un casque jaune, et à l'époque, on les voit très bien, les casques, ils sont peut-être pas terrorisés, mais ils sont impressionnés. Ils savent que Ayrton Senna va les attaquer tout de suite, immédiatement, de la manière la plus tranchante et la plus décisive qui soit. Et c'est ce qui se passe un peu pour Nannini, qui ne cherche même pas à résister. Mais avec ses pneus neufs et son museau neuf, Ayrton fait un exploit absolument remarquable. Il est anéanti par la fatigue, par la tension, par l'émotion à l'arrivée. Il est anéanti et doublement anéanti quand il apprend qu'évidemment il est déclassé et qu'il ne marquera pas de points lors de ce Grand Prix du Japon.
Et alors c'est cette disqualification qui fait énormément jaser Jean-Luc.
Oui,
et
oui,
c'est,
oui.
Et c'est ce qui a créé cette fracture aussi entre les pro-Prost, les pro-Sénat, une disqualification, tu le disais, avec ce président de la fédération qui est français, qui a été jugé politique par beaucoup. Puisqu'elle donne le titre à Prost. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu cette disqualification, cet après Suzuka 89, le point culminant de la guerre psychologique de l'aura de Prost et Senna et de l'emprise qu'ils veulent avoir l'un sur l'autre.
Oui, oui, bah c'est tout à fait ça. Écoute, c'est le problème, c'est que les passions, on l'a compris, sont exacerbées par cette saison qui a été très difficile, très compliquée. Ron Dennis, pourtant, qui est quelqu'un qui parle peu, qui se livre peu, mais reconnaît volontiers que la gestion au sein de l'équipe est extrêmement difficile entre ces deux monstres, ces deux pilotes. On n'en connaît pas l'issue encore. Bon, je la donne, évidemment. Alain Prost va claquer la porte de McLaren après ce troisième titre de champion du monde et va partir chez Ferrari. Hein. Il négocie depuis un moment. Il a compris que sa place n'est plus là. Et quant à Ayrton, Ayrton, il est quelque part dépité. Il est quelque part désorienté. Je le disais une nouvelle fois, tous les témoins proches de ce duel, de ce combat, on peut dire, de cette lutte, sont gênés parce qu'on aimerait, et on les met tous les deux dans l'admiration qu'on leur porte, hein, dans le respect, une nouvelle fois, qu'on leur porte. C'est difficile de ne pas prendre parti en disant c'est de la faute à Senna, il n'aurait jamais dû tenter une attaque comme celle-là, c'était suicidaire, ça ne pouvait pas passer. Et puis d'autres disent, oui, Prost, il a tendu un piège, il a légèrement entrouvert la porte en sachant que Ayrton allait se ruer là-dedans pour se rabattre sur lui à 60 km et éliminer les deux monoplaces du même coup. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, puisque on sait également, et je suis obligé d'en parler, que l'année d'après, il va y avoir cet accrochage au départ de Suzuka entre la Ferrari d'Alain Prost et la McLaren d'Ayrton Senna, et là c'est l'inverse.
Eh oui.
Ayrton sait que s'il élimine Alain dans ce Grand Prix, eh bien c'est lui qui est champion du monde. Et c'est ce qui va se passer. Et Ayrton va l'avouer, ça. Plus tard, il le dira, il a dit, oui, bien sûr, je l'ai fait exprès. Je savais que si je ne sortais pas, Alain, dans les premiers mètres de ce Grand Prix, je ne le reverrais jamais. Donc, je n'avais que cette solution, et donc je l'ai fait. Alain ne s'est jamais véritablement exprimé sur l'ensemble de la manœuvre de ce Grand Prix du Japon à Suzuka en 1989.
Ce duel est devenu un mythe entre Alain Prost et Ayrton Senna, bien évidemment. Si vous voulez en savoir plus sur la vie d'Ayrton Senna, je vous conseille le très bon Panthéon avec Jean-Luc et Nicolas Jamin sur ce qu'était Ayrton Senna. Voilà, c'était le premier épisode, Jean-Luc, de notre rétro. Dans le rétro de Jean-Luc, on se retrouve la semaine prochaine. Titre de 1997. La
Welcome
semaine prochaine, Jacques Villeneuve. C'était super. Si vous aimez ces formats-là, surtout, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous envoyez des messages à Jean-Luc. Sur la page Instagram RMC Formule 1, on vous lit. Voilà. Et puis, vous n'oubliez pas toujours de noter le podcast. On lance 2026 par cette petite série. On espère que ça va vous plaire. Bye bye.
Le paddock RMC.